de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission où on a l'habitude de faire des blind tests ou faire des interviews. On aurait pu faire un blind test aujourd'hui, bien sûr, James Mangold ou Timothée Chalamet, puisque Manu, tu vas nous parler d'un film très attendu.
Un parfait inconnu, un biopic sur Bob Dylan.
Mais si je présente les choses comme ça, c'est qu'on ne va pas faire ça du tout, puisqu'on va écouter une interview de Robert Guédiguian. Ça n'a absolument rien à voir. Il est beaucoup moins, comment on pourrait dire, par rapport à Timothée Chalamet. Si on devait mettre Robert Guédiguian à côté de Timothée Chalamet.
Ouais. Moins jeune.
Il est moins sexy, il est moins jeune, il est moins tout cela. En tout cas, nous allons pouvoir l'entendre dans cette émission, puisque nous allons parler de son film La Pie Voleuse. Et toi, Sophia, tu parler de quoi?
Je vous parlerai de Jane Austen a gâché ma vie, non pas un biopic, mais une comédie romantique.
Et un premier film, je crois.
Oui, pour Laura Piani, sa réalisatrice.
Et puis en bonus, tu as un autre film, Manu.
Nouveau film de Mel Gibson, Vol à haut risque.
Mais nous allons commencer cette émission avec James Mangold, qui avait pris Joaquin Phoenix quand il avait fait le biopic sur Johnny Cash. Et le voilà donc qui prend Timothée Chalamet, autre acteur talentueux, pour cette fois-ci se concentrer sur la période où Bob Dylan passe de la folk à la guitare électrique. Nous parlons d'un parfait inconnu.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
T'as fait tout ce chemin depuis le Minnesota? Pourquoi?
Pour trouver l'inspiration.
Le biopic musical, un sous-genre d'un genre à part entière, connaît un regain d'intérêt depuis quelques années. Au-delà de leur qualité intrinsèque, les récents alors Rocketman sur Elton John et Bohemian Rhapsody sur Queen se heurtaient à une difficulté, le problème du mimétisme entre le comédien et la star, où la performance prime parfois sur l'authenticité. Alors l'admiration portée à un artiste, ça confronte souvent à la vision imposée par les producteurs et ou réalisateurs, dont les choix se révèlent parfois discutables. La première inquiétude face à un parfait inconnu tient dans son casting et plus prosaïquement dans la décision d'engager Timothée Chalamet pour interpréter Bob Dylan alias Robert Zimmerman, légende de la folk music. Alors la finesse des traits de l'acteur, malgré un postiche discret sur le nez tranche avec le visage un peu ingrat du chanteur. Première surprise, la coqueluche du moment convainc dès son apparition, à l'aise dans la peau de ce jeune surdoué de 20 ans qui débarque à New York avec sa guitare et ses chansons à l'aube des années 60. Un parfait inconnu vous ensorcelle dès les premières minutes et se révèle être l'un des meilleurs biopics vus sur un écran, et bien depuis Walk the Line, consacré donc à Johnny Cash. Alors comme il n'y a pas de hasard dans l'existence, les deux films sont réalisés par James Mangold, cinéaste à l'ancienne, passant d'un genre à l'autre, capable du meilleur lorsque le matériau d'origine est solide, à l'image notamment, on pourrait en citer plusieurs, à l'image des excellents Copland et Identity. Alors ce qui est le cas dans cette adaptation d'un roman d'Elijah Wald, qui retrace le parcours de Dylan, de ses débuts de folk singer en 1961, jusqu'en 1965, où il ramena la fée électricité au festival de Newport. If you're traveling
in the North Country Fair. Ils disent que personne n'a envie d'entendre ce qu'un gamin a écrit le mois dernier.
Eh bien, moi, en tout cas, j'aime tes chansons. The winds hit heavy
on the borderline. Qui a écrit ça?
C'est lui. Remember me. Et si on applaudissait John Baez, les gars? Elle est jolie. Elle chante joliment. Peut-être un peu trop joliment. Tes chansons, c'est comme des peintures à l'huile dans un cabinet dentaire.
Tu peux être un vrai petit con, Bob.
De sa rencontre émouvante avec Woody Guthrie, atteint d'une maladie incurable, à celle tumultueuse, comme on l'entend un peu avec John Baez, hein, en passant par celui qui le propulsa au-devant de la scène, Pete Seeger, le père fondateur du folk, ce portrait lucide évite intelligemment deux écueils, celui de la géographie et celui, plus tentant, de ramener le comportement parfois limite de la rockstar à l'aune de notre époque et d'en tirer des conclusions expéditives. Alors Bob Dylan n'apparaît pas comme un génie intouchable, ni comme un mal-alpha toxique avec les femmes, tentation qui serait pourtant facile. Il est perçu, alors non pas comme une énigme, mais comme un homme à la fois immature et obsessionnel, égoïste et entièrement dévoué à son art. Alors cet investissement frénétique est fixé par une règle à laquelle il n'a jamais dérogé. Rien ni personne ne doit entraver ses objectifs et sa vision personnelle de sa carrière. Toujours avancer, progresser, être en phase avec son époque et même la devancer si possible. Alors se servir aussi de l'actualité, des revendications d'une société en mouvement pour composer les meilleures chansons possibles. Alors cette position est contestable, d'autant que Dylan n'a rien en fait d'un militant engagé pour des causes nobles ou contre un système répressif. Il n'a pas la conscience politique et l'idéalisme de John Baez qui portait très jeune un regard lucide sur le monde qui l'entourait. If you go with snowflakes on,
when the river's freezing, summer ends. Si tu veux captiver l'attention quand t'es sur scène, il faut être excentrique. Tu peux être magnifique ou très moche, mais tu peux pas être banal.
Il sort quand ton album ?
Bientôt. Il y a 200 personnes dans cette pièce et chacune d'elles veut que je sois quelqu'un d'autre. Faut juste qu'ils me laissent être.
Être quoi ?
Tout ce qu'ils veulent que je sois pas.
Alors ce monde, hein, de par l'investissement, l'engagement, hein, que ne voit pas Dylan, hein, mais qui paradoxalement l'habite, le chante avec une force de conviction évidente. La contestation nécessaire à ses yeux nourrissait ses compositions, ses textes à la poésie brute et au ton mordant. Rien ne devait le distraire de la voie qu'il s'était lui-même fixée. Alors il ne pouvait finalement que faire du mal alors aux femmes qui l'ont aimé, puis à ses proches, amis ou collaborateurs. Plus solitaire que narcissique, le Dylan filmé par Mangold n'en est pas moins touchant, si loin, si proche, hein, une sorte de sale gosse génial que l'on a envie tour à tour de gifler et de prendre dans ses bras. Encore une fois, il s'agit d'une fiction, hein, qui donne un point de vue personnel, alors celui de l'auteur du roman et par extension du réalisateur, sur l'une des icônes les plus importantes de la contre-culture de ces 50 dernières années.
Paraît que Bob joue de l'électrique.
Pas sur notre scène en tout cas.
Ils veulent que je sente Blowing in the Wind jusqu'à la fin de ma putain de vie.
J'en connais un paquet qui vont pas aimer.
T'as débarqué ici avec rien d'autre qu'une guitare. Tu parles jamais de ta famille, de ton passé.
Les gens s'inventent leur passé. Sylvie, ils se rappellent ce qu'ils veulent, ils oublient le reste.
Je veux savoir dans quel camp il est.
Je suis pas sûr qu'il veuille entendre ce que j'ai envie de jouer, Johnny.
Moi, je veux l'entendre.
La mise en scène limpide au service d'un scénario admirablement bien construit met en lumière la sensibilité à fleur de peau d'un musicien et parolier hors pair, hein, que l'on adore détester ou que l'on déteste adorer. James Mangold se concentre sur ce qui a toujours maintenu Dylan en vie, le travail et l'inspiration. Cette inspiration transmise par ses maîtres, hein, nous gratifie des plus belles scènes du film, pic d'émotion entre le songwriter avant-gardiste et un Woody Guthrie diminué. La photographie en clair-obscur, hein, qui rappelle un petit peu le film des frères Cohen, le travail qui a vu sur le film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis. La reconstitution minutieuse du New York des 60s et la fluidité d'un montage rappellent aussi le meilleur du cinéma classique américain, celui de Clint Eastwood et de Milos Forman, à qui l'on doit peut-être aussi les deux plus beaux biopics sur la musique. L'un s'appelle Bird sur Charlie Parker et puis l'autre c'est Amadeus sur Mozart, évidemment. Voilà.
Alors oui, bah, fluidité, effectivement, je pense que c'est une des caractéristiques de James Mangold. Tu parlais des films, des bons films qu'il a fait, et on peut noter Le Mans 66, qui est un film remarquable.
Je ne l'ai pas vu. Avec les voitures, t'as d'autres
à cause ben, même ça. Si on n'aime pas les voitures, on m'en a encore parlé il y a quelques jours, même si on n'aime pas les voitures, on est captivé par ce film et par ce qu'il raconte et comment il est filmé. Et puis, il y a aussi quand même Logan. Alors, il a fait Wolverine, mais il a fait aussi Logan, qui est quand même plutôt une réussite dans le genre super-héros. Nous parlions sûrement du film du moment, Imparfait Inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet, qui est en salle depuis le 29 janvier. Les atermoiements amoureux d'une jeune femme dont l'imaginaire est imprégné de l'œuvre de la romancière britannique. C'est Jane Austen a gâché ma vie.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma et tout le reste.
pas très compliqué à comprendre.
La romancière Jane Austen peut-elle vraiment gâcher des vies? Lesquelles et comment? Ces questions aussi intrigantes que provocatrices servent de fil conducteur au premier long métrage de Laura Piani, une comédie romantique, délicate et charmante, qui se situe entre le raffinement des œuvres de la célèbre autrice britannique et l'humour very British d'une série comme Fleabag. Mais au-delà des références, le film explore avec finesse ce que signifie vivre sa vie à travers le prisme de ses attentes, de ses blessures et de ses rêves.
That's a Sense and Sensibility.
Okay, thank you.
My favorite.
T'as un bouquin de Jane Austen à conscience en toutes circonstances. Et toi, tu serais qui?
Anne Elliot, Tempest Raisin. Elle est consciencieusement passée à côté de son existence.
Agathe est une jeune femme pleine de contradictions, libraire dans la mythique librairie Shakespeare and Company à Paris, un lieu qui ressemble plus à un théâtre littéraire qu'à une simple boutique accueillant poètes et férus de lettres, où on parle anglais en plein milieu du quartier latin à Paris. Elle y conseille ses clients avec une précision analytique. Et forcément, la vie telle qu'elle la dévore dans les livres est plus vibrante que celle qu'elle mène. Et en ça, on comprend déjà en quoi Jane Austen gâche sa vie. Célibataire, elle rêve d'une histoire d'amour digne des romans de son autrice préférée. Écrivaine en devenir, elle n'ose pourtant pas croire en son talent. Son existence prend un tournant lorsqu'un événement inattendu la pousse hors de son cocon. Félix, son meilleur ami et collègue, envoie en cachette les premières pages de son manuscrit à une fondation anglaise. Résultat, une invitation à la prestigieuse Jane Austen Residency pour une retraite d'écriture de 2 semaines. Dès son arrivée là, en Angleterre, la comédie romantique s'installe. C'est donc l'arrière-arrière-arrière-petit-neveu de Jane Austen lui-même qui vient chercher Agathe au ferry, s'attendant à y trouver une vieille dame. Il accueille en fait une jeune femme charmante, mais terriblement maladroite, puisque prise de mal de mer, elle vomit immédiatement sur ses chaussures. Ce qui suit, entre doutes, quiproquos et références littéraires, nous plonge dans une rom-com plutôt classique mais rafraîchissante, où Agathe doit non seulement composer avec ses propres failles, mais aussi avec une relation électrique qui se développe sur fond de manuscrits inachevés.
La Jane Austen Residency m'invite à passer 2 semaines en Angleterre. Ils ont aimé les premiers chapitres de mon roman. Putain, t'as pas fait ça?
T'as donné un petit coup de pied au cul, c'est très bien, non?
Je suis avec l'arrière-arrière-arrière-petit-neveu de Jane Austen. Cela pète énormément. Méga balai dans le cul.
Je parle français, vous savez.
J'espère que vous serez inspiré ici.
Vous n'avez aucun nouveau message et je vous rappelle que vous n'avez toujours pas écrit une ligne.
Et si on allait faire un tour au pub?
Le charme de Jane Austen à gâcher ma vie repose avant tout sur son héroïne, incarnée par une Camille Rutherford, qu'on avait vue notamment dans Anatomie d'une chute, qui est lumineuse et profondément touchante. Agathe, pleine de charme et de maladresse, est un personnage dans la veine des grandes protagonistes d'Austen, vraiment, mais avec un ancrage contemporain. Comme Anne Elliot dans Persuasion, son roman préféré, elle semble passer complètement à côté de sa propre vie, se réfugiant dans la littérature pour affronter un drame intime. À la manière d'Austen, Laura Piani excelle en fait à travers un scénario révérencieux. Elle nous immerge dans le point de vue d'un personnage féminin écrit par une femme, héroïne complexe, oscillant entre rêve romanesque et doute personnel, tout en injectant dans son récit un humour qui est quand même savoureux. Si l'on pense immédiatement à Bridget Jones, le film m'évoque surtout l'excellente série Fleabag de la londonienne Phoebe Waller-Bridge. La comparaison peut sembler surprenante tant les deux protagonistes peuvent sembler aux antipodes, mais toutes deux cherchent à pallier des blessures profondes en utilisant alors le sexe pour Fleabag, mais la littérature romanesque pour Agathe, toutes deux comme béquilles. Le tout avec un humour tantôt corrosif, tantôt doucereux, mais oh so British.
I'm in love with...
Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous étiez fait pour quelque chose ou pour quelqu'un? Que c'était juste une question de temps?
Vous parlez de quoi là? D'écriture ou d'autres mecs?
Oh hello!
J'ai pas couché avec un mec depuis 2 ans et je roule des pelles à mon meilleur ami.
Entre le quartier latin de Paris et la campagne anglaise digne d'Orgueil et Préjugés, la réalisation tire parti de décors enchanteurs, mais ce sont surtout les dialogues qui donnent vie au film, hein, comme cette réplique mordante de Félix adressée à Agathe, sa meilleure amie. Tu attends qui, Mark Darcy? Alors les fans d'Austen et de Bridget Jones relèveront évidemment les clins d'œil. On relève aussi une apparition du documentariste Frédéric Wiseman récitant ce poignant vers « C'est avec un cœur brisé que commence toute perception », renforce aussi la poésie du récit et illustre le propos central du film « Oser sonder ses ruines pour enfin avancer ». Même si le film flirte parfois avec une trop grande naïveté et offre des scènes plutôt prévisibles, cela n'enlève en rien le plaisir qu'il procure. Jane Austen a gâché ma vie est une ode aux rêves, au courage de les vivre. À travers une comédie romantique gracieuse et parfois très maladroite, Laura Piani nous rappelle que oui, sonder ses ruines est souvent le premier pas pour écrire sa propre histoire. Et si Jane Austen gâche des vies, c'est peut-être pour mieux les reconstruire.
Ce film, cette comédie romantique, est en salle depuis le 22 janvier. Ça fait déjà deux films qu'on recommande. Et c'est peut-être parti pour un troisième. Nous allons parler maintenant de La Pivoleuse de Robert Guédiguian. Aide à domicile, Maria vole des sous par-ci par-là pour combattre le déterminisme social et puis et aussi un peu pour se faire plaisir.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Alors il y a deux camps quand il est question de Robert Guédiguian, ceux qui aiment et ceux qui détestent. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous demander de quel camp vous faites partie.
Entre les deux.
Entre les deux.
Voilà, entre les deux.
J'ai oublié ce camp.
Non, mais j'ai aimé ces films et je m'en suis un peu lassé. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas vu un seul de ces films depuis 15 ans.
Et voilà, quand même. Et toi, Sophia ?
De la même manière, je ne suis pas aussi polarisée que ça. J'ai des souvenirs qui sont mitigés.
Voilà, bon, il y a ce troisième camp, pardon. Alors, ceux qui l'aiment trouvent chez le cinéaste marseillais un film qui semble se répéter car employant les mêmes thèmes. Ceux qui ne l'aiment pas trouvent qu'effectivement, eh bien, tous les films sont identiques, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a souvent alors une forme de simplicité du récit et pour La Pivoleuse, son dernier long métrage, elle est encore à l'œuvre et systématisée avec le lieu du tournage. Alors, Marseille, évidemment, mais plus précisément l'Estac, d'où le cinéaste est natif. Il y a aussi les acteurs, on y voit Daroussin, Gérard Mélian et Ariane Ascaride, des fondamentaux de la troupe. Alors pour ce film, Guédiguian nous fait suivre donc Maria, une aide à domicile qui fait bien son travail, rendant service plus que de raison aux personnes âgées dont elle a la charge. Mais précaire comme elle est, elle grappille des petits sous par-ci par-là sans éveiller les soupçons jusqu'au jour où le fils d'un de ses patients s'aperçoit que son père paie la location d'un piano. Et ce piano sert au petit-fils de Maria pour son apprentissage. Le rêve de Maria est bien que son petit-fils, qui a du talent mais pas d'argent, puisse lui se mesurer avec les enfants mieux lotis. Il y a donc un grain de sable.
Oh, tiens.
Bonjour, papa.
Tu veux prendre l'apéritif ?
J'ai l'habitude de m'occuper de ses affaires. Est-ce que vous pouvez me dire pour qui il loue ce piano ?
Oui, bien sûr.
Madame Jourdan ?
C'est moi.
Ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon père loue ce piano pour vous.
T'as recommencé comme avant ?
C'est pour le petit.
Qu'est-ce que tu lui donnes, à part le piano ?
Je vous demande de ne pas porter plainte. On remboursera tout à votre père.
Alors c'est d'abord sur le ton de la chronique que ce récit plutôt agréable se déploie. Maria va de son foyer où un mari addict au jeu n'arrange pas la situation financière de la maison aux différents domiciles des personnes âgées. Le réalisateur s'attarde sur Monsieur Moreau, un ancien instituteur incarné par Daroussin qui aime beaucoup la présence de Maria. Et c'est lui d'ailleurs qui pèse sans le savoir le piano du petit. Mais une succession de bavardages ne font pas un film, Guédiguian le sait bien, c'est pourquoi il fait en sorte que Maria se fasse pincer, mais comme ça ne suffit pas, il établit un twist ou un rebondissement, mais vraiment intersidéral. En modifiant l'attitude d'un des seuls personnages détestables du film, celui-ci va devenir fou amoureux d'un autre personnage clé de l'histoire. Cette relation ayant des répercussions sur la situation de Maria. Il n'est plus simplement question de conflit moral, de déterminisme social, Guédiguian met alors une dose de romanesque. Ça manque clairement de nuances et selon moi, ça gâche le récit de ce film qui reste plutôt aimable dans ses grandes lignes. Il reste attachant avec des personnages bien campés, une thématique, celle du déterminisme social, qui vise juste. Mais l'artifice scénaristique est trop voyant, c'est ainsi. Mais on va quand même laisser Robert Guédiguian s'en expliquer puisque nous l'avons rencontré.
Je crois que si l'on veut parler au monde entier, il faut parler de son village. C'est Tchekhov qui disait ça déjà. Donc je pense vraiment que le monde est le même partout. Mais je crois que si le monde est le même partout, il se présente sous des formes différentes. Et que c'est ces formes différentes qui font l'unité du monde, en fait. C'est la diversité culturelle qui fait l'universalité.
Votre courrier.
Et les bulots, ils sont où ?
Ben, ils sont là.
Vous pourriez me signer des chèques d'avance ? Je me suis servi du dernier.
Je pense que je prends quand même un peu le pouls de l'état dans lequel sont les pauvres gens, quoi. On va dire les gens les plus défavorisés, les gens qui sont bas de l'échelle, enfin, je ne sais pas comment les appeler. C'est pour ça que je reprends le mot de Victor Hugo, je dis les pauvres gens. Voilà. Et tous les 7-8 ans, hein, je fais un film dans ce quartier-là précisément. C'est le cas de celui-ci. C'était le cas des Neiges, c'était le cas de Marius, c'était le cas... Voilà. Donc, c'est comme effectivement un prélèvement à chaque fois de la société, de cette société-là, pour mesurer comment vont ces gens-là. Comment ils vont dans le rapport qu'ils ont aux élections, le rapport qu'ils ont aux idéologies, le rapport qu'ils ont aux religions, le rapport qu'ils ont à leur histoire d'amour, le rapport qu'ils ont à... Donc, comment, en fait, le mot pour voir comment ils vivent et comment ils meurent parfois.
J'ai fait toutes les courses.
Merci, ma belle.
Je mets la monnaie dans le compotier. Combien reste sur le compte ?
Il n'y a plus rien.
Tu as recommencé à jouer ?
À partir de cette petite histoire de la voleuse, comme ça, qui vole très peu, hein, et qui vole, bon, qui se paie ses heures sup, comme on dit dans le film à un moment donné. Donc, c'est une voleuse qui rétablit une certaine injustice sociale. Et du coup, quand on a eu l'idée de ça, j'ai quand même tout de suite pensé. Et je l'ai dit à mon chef monteur, surtout. J'ai dit, je sais pas, il me semble que le film est très simple. On n'avait pas écrit, il va être très simple, il va être très dessiné, comme ça, et que... Et je lui ai dit, ça m'a fait penser à un film muet. Vous voyez, c'est pas... Alors, il y avait des dialogues dans le scénario. Et du coup, film muet, ça m'a renvoyé à musique, en fait. Je la voyais marcher dans les rues en écoutant de la musique. Voilà, avec son petit-fils qui joue de la musique, donc avec de la musique partout, avec, bon, avec des scènes sans dialogue et de la musique, quand elle, par exemple, elle se baigne dans la piscine, là, bon.
C'est sûr, il va l'avoir, son concours.
Arrête, tous les autres élèves, ils prennent en plus des cours particuliers, alors on ne pourra jamais se payer ça.
J'ai appelé son professeur de piano au conservatoire. Il est d'accord pour lui donner des cours particuliers.
Mais tu le payes comment ?
J'ai pris du travail en plus.
Il fallait que ce soit un vol, comme on dit en termes juridiques, par nécessité. Souvent, c'est qualifié de nécessité quand c'est lié à l'alimentation. Bon, quelqu'un a volé du beefsteak. Et à la fois, je voulais qu'il y ait un petit... qu'il y ait un bémol par rapport à ça, quand même. C'est-à-dire que, évidemment, elle vole pour le petit-fils. Elle est très dévouée, par ailleurs, c'est une très très bonne professionnelle, plus que professionnelle, elle est très attachée. En fait, aux gens hein, qui l'adorent, elle y va, d'où la scène de l'orage, elle y va le soir tard, elle n'a pas à y aller. Théoriquement, les gens ne devraient même pas avoir son numéro de téléphone, en fait. Ils peuvent quand même l'appeler, elle se déplace sous la pluie, elle y va, elle passe la nuit là-bas. Mais bon. Donc c'est une fille formidable. Et elle vole un tout petit peu pour cette histoire de cours. Mais elle vole aussi un petit peu pour manger des huîtres. C'est pour ça qu'on voulait faire un petit décalage aussi. Et là c'est un vol, quoi. Pour manger des huîtres, et pour écouter Rubinstein, qui joue du Litz, parce qu'elle adore ça, voilà. Moi, je voulais un peu insister là-dessus, pour dire aussi que on n'est pas fait pour survivre, hein. On est fait pour vivre.
Cette femme, faut l'empêcher de nuire. Peut-être qu'elle fait ça chez d'autres vieux.
Tu mets plus les pieds chez Moreau. Et toi, remplacer, raconte n'importe quoi.
Au fur et à mesure de l'écriture, on a vu très vite qu'il nous fallait quelque chose. Il nous fallait un coup de théâtre. Un coup de cinéma, quoi. Enfin, il nous fallait quelque chose, ce que vous appelez un twist. Il nous fallait quand même quelque chose qui fasse que ce récit devienne un récit. Parce qu'avant, c'est une chronique. Donc c'est une forme de récit, la chronique. Mais enfin, c'est une chronique, c'est-à-dire c'est du temps qui passe chez un certain nombre de personnages. Mais aucun personnage ne se transforme. Donc dans ce sens-là, c'est la définition même de la chronique. Pour que la chronique devienne une fable, un récit, il fallait qu'il se passe un événement précis, une action, qui bouleverse la vie de tous les autres. Et du coup, il y a eu cette idée de la fille qui s'énerve contre sa mère, et qui dit « je vais rendre l'argent », elle va là-bas, puis voilà, je sais pas, une des deux, ou Serge ou moi, elle a dû dire « et il devient amoureux ». Cette idée-là, et que tout de suite, elle nous a beaucoup plu, parce qu'elle est vraiment très, 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 très surprenante.
J'aimerais que tu arrêtes de travailler chez les hommes qui sont seuls.
C'est vraiment bête, ce que tu dis. Mais ça me touche beaucoup.
Et votre petit-fils, le piano, il progresse ?
Oui, oui. J'y prends des cours particuliers à Avenue du Prado.
Il est jeune. Il a le temps.
Cet accent de Marseille dans Cinérama, c'était celui de Robert Guédiguian. Nous parlions de la pivoleuse et on n'en a pas fini avec Robert, puisque lors de cette conférence de presse, il a parlé eh bien, du cinéma d'auteur et écoutez son avis.
Il faut quand même que les auteurs se méfient un peu, moi je crois. Il faut que les auteurs fassent des efforts pour quand même aller un peu vers le public, quoi. Fasse un pas. Il ne faudrait pas que le cinéma devienne, par contre, ce qu'est le théâtre ou l'opéra, c'est-à-dire un art un peu de répertoire. Si le cinéma, si on veut qu'il reste populaire, quand même, donc ça veut dire beaucoup de gens qui vont voir les films, et il faut faire des films qui plaisent un peu. Hein, voilà. Il y a un côté un peu chiant, quoi, hein, du cinéma d'auteur international qui est un peu qui emmerdant souvent, il faut le dire. Il se tape un peu dessus, quoi. Hein, je veux dire, c'est un peu là, il faudrait. Alors que bon, tout le monde sait bien que je fais Molière, disait le plus grand de tous les arts, c'est l'art de plaire. C'est vrai qu'il faut plaire, même quand on raconte des choses extrêmement sérieuses et sensées, pointues, et tout ce qu'on veut, il faut quand même qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait du spectacle. Enfin, on va au cinéma pour ça. Sinon, on reste chez soi et on lit une thèse de je sais pas qui sur je sais pas quoi. Ce qui est très intéressant aussi d'ailleurs, mais bon. Mais c'est pas du cinéma.
Robert Guédiguian fait des films aussi pour plaire. Voilà. Nous passons maintenant à un tout autre film, c'est Vol à haut risque. Est-ce que Mel Gibson et Mark Wahlberg font des étincelles dans ce film ? C'est toi, Manu, qui nous en parle.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
J'ai encore jamais emmené de Marshall, moi. J'espère que vous aimez l'avion. C'est un beau jour pour voler.
Alors je ne sais pas si le film va plaire, mais je crois que c'est quand même le but. Hein. Voilà, un film populaire. Alors Vol à haut risque, le nouveau film de Mel Gibson, après 9 ans d'absence derrière une caméra, surprend par la modestie d'un projet anachronique qui semble provenir d'une époque lointaine, celle des années 90, sous cartonné en salle. Alors des petites productions du type Passager 57 ou Ultime Décision, alors sans parler de plus gros blockbusters comme Les Ailes de l'Enfer. Alors loin de l'ambition ou de la boursouflure, hein, selon... qu'on aime ou pas son cinéma, hein, d'Apocalyptico et de Tuntura Point, le cinéaste revient avec une série B à concept d'un budget de 25 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme dans le contexte économique actuel. Hein. Le scénario ultra convenu tient en deux lignes. L'US Marshal Madeline Harris est chargé d'escorter Winston, un comptable délinquant, qui doit témoigner contre un parrain de la mafia. Pendant leur voyage en avion, elle se méfie rapidement du pilote Daryl Booth, qui évidemment n'est pas celui qu'il prétend être, mais un tueur chargé d'éliminer les deux passagers à bord.
Pourquoi il est enchaîné ?
Il doit l'escorter jusqu'à New York où il doit témoigner contre les Meretti, une famille de mafieux.
Ok, Dak. C'est vous la patronne ?
Ça bouge toujours autant.
Si vous saviez combien il y en a qui ont rendu leur déj dans cet avion, je pourrais ouvrir un snack.
Votre cou, ça va ? Vous saignez ?
Ah, c'est la maintenance. Les risques du métier, comme on dit.
Alors, nul spoil à l'évocation du pitch, hein, car tout est annoncé dans la bande-annonce, par ailleurs assez repoussant, ne donnant aucune chance au film. Dommage, car Vol à haut risque mérite le détour, car en à peine 90 minutes, Mel Gibson tient le cap du huis clos tendu, sans jamais céder à la tentation d'un flashback inutile ou de sortir de son unité de lieu. Alors, hormis lors de l'intro pour poser les bases du récit, et lors d'un final spectaculaire confirmant le savoir-faire visuel d'un réal qui a l'air de se faire plaisir. Alors au moins, ce film d'action à l'ancienne, aux enjeux très minces, trop même, il faut bien l'avouer, hein, ne risque pas de provoquer la moindre polémique ni de déchaîner de haine ou de passion, contrairement à certains de ses films comme La Passion du Christ. Hein. Il joue la carte du divertissement vintage avec son lot de clichés, de romandissements too much et de dérisions bienvenues. Jamais prétentieux, parfois même bas de plafond, hein, dans l'exécution, Vol à haut risque est entièrement pensé à l'hôtel de la pure efficacité, alors tant d'un point de vue visuel que narratif, grâce à un montage nerveux et un filmage à l'économie qui démontre un sens de l'ellipse et de l'espace plus si courant aujourd'hui.
Mayday, Mayday, on a été piégés. Le pilote est un tueur à gages.
Je vais vous découper. Il faudra l'équipe de la scientifique au grand complet pour vous identifier.
Dites-moi comment piloter ce truc, ou on va tous mourir.
Vous me prenez clairement pour un mec qui en a quelque chose à foutre.
Vous entendez ? L'armée arrive.
Ils vont pas vous aider. Ils sont là pour vous tirer dessus.
Alors si en psychopathe à moitié chauve, hein, ce qui nous vaut un gag plutôt amusant, hein, Mark Wahlberg en fait des méga caisses, ne rendant pas toujours crédible son personnage. Michel Dockery, hein, en agent du FBI, est absolument remarquable. Alors d'autant que les personnages féminins sont assez rare, voire inexistant en général, dans le cinéma de ce gros mascu de Mel Gibson, dont la carrière est quand même bien derrière lui. Mais le bon démarrage du film, avec plus de 15 millions de dollars en un week-end, pourrait le remettre en selle. Alors un petit plaisir de vidéoclub qui ravira les nostalgiques de films d'action un peu concon mais ludiques, notamment ceux avec Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme ou Wesley Snipes.
Que des bons souvenirs voilà. Pour certains, donc Vol à haut risque est en salle et puis on retrouvera Mel Gibson pour L'Arme fatale 5 bientôt.
Ah oui, qui compte réaliser, je crois.
Ouais, je crois qu'il est dans la production. Ainsi s'achève Cinérama.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Sophia, tu espères avoir un film ?
Oui, La mer au loin.
Et toi, Manu ?
Ce sera un film d'horreur, a priori, Compagnon.
Et puis Guillaume sera de retour avec 3 films. À la semaine prochaine.
This is Cinérama. 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 Cinérama.